Ivanhoé, chapitre 2. C'était un moine accompli en moinerie, un cavalier aimant la chasse et le gibier, un maître homme bien fait pour être abbé. Il tenait de superbes chevaux dans son écurie, et lorsqu'il chevauchait, toute la sonnerie de sa monture résonnait en plein air aussi haut que la cloche du couvent dont il était le supérieur, qualité en vertu de laquelle il gardait seul les clés de la cave. Traduction de Chaucer. Malgré les exhortations et les reproches réitérés de son compagnon, car le bruit du pas des chevaux continuait d'approcher, Vamba ne pouvait s'empêcher de ralentir sa marche, en saisissant toutes les occasions de s'arrêter que lui présentait la route. Tantôt c'était pour cueillir dans le taillis quelques noisettes à demi mûres, tantôt pour retourner la tête et lorgner une jeune fille de campagne qui passait devant eux. La cavalcade les eut donc bientôt rejoints. Elle était composée de 10 hommes. Les 2 qui marchaient en tête semblaient des gens de haut parage. Les autres leur servaient d'escorte. Il n'était pas difficile de reconnaître la condition et le caractère de l'un de ces personnages. C'était évidemment un ecclésiastique d'un rang élevé. Il portait l'habit de l'ordre de Cîteaux, mais d'une étoffe beaucoup plus fine que ne le permettait la règle. Son manteau et son capuchon étaient du meilleur drap de Flandre et formaient autour de lui une draperie large et gracieuse, malgré la corpulence de sa personne. Il avait un extérieur assez agréable qui n'annonçait pas plus le jeûne et les macérations que ses habits n'attestaient le mépris du faste et de l'opulence terrestre. Ses traits pouvaient passer pour réguliers, mais de ses paupières baissées jaillissait fréquemment l'étincelle d'un regard épicurien qui décelait en même temps un amateur de la bonne chère et des plaisirs du monde. Du reste, sa profession et son rang lui avaient appris à régler sa contenance, à laquelle il pouvait à volonté donner une apparence grave, quoiqu'elle fût naturellement enjouée. Malgré les règles de son couvent, les bulles du pape et les canons des conciles, les manches de ce dignitaire de l'église étaient garnies de riches fourrures. Son manteau était retenu autour du cou par une agrafe d'or, et l'habit de son ordre, dans lequel perçait une certaine recherche, indiquait la même coquetterie que l'on retrouve aujourd'hui dans le costume d'une séduisante cacresse qui, tout en conservant la mise ordinaire de sa secte, donne à sa simplicité, par le choix des étoffes et par la manière de les disposer, un certain air prétentieux qui se rapproche beaucoup d'une vanité toute mondaine. Ce digne ecclésiastique montait une mule fringante dont le pas habituel était l'amble. Elle était magnifiquement harnachée, et sa bride était ornée de petites sonnettes d'argent selon la mode du temps. Sur sa riche selle, il n'avait rien de la gaucherie empesée du cloître, mais il déployait les grâces et l'aisance d'un cavalier habile et exercé. L'allure si douce de sa monture pouvait faire croire qu'elle n'était destinée qu'à un service momentané, car il était suivi d'un frère laid conduisant par la bride un des plus beaux coursiers que l'Andalousie eût jamais produit, et que les marchands anglais se procuraient à grands frais et faisaient venir, non sans quelques risques, pour l'usage des personnes riches et distinguées. La selle et la housse de ce superbe palefroy étaient couvertes d'un drap tombant presque jusqu'à terre, sur lequel étaient richement brodés des mitres, des crosses et autres emblèmes sacerdotaux. Un autre frère laid conduisait une mule chargée de bagages, appartenant probablement à son supérieur, et 2 moines de son ordre se tenaient à l'arrière-garde, riant et conversant ensemble, et paraissant s'occuper fort peu des autres membres de la cavalcade. Le compagnon du dignitaire ecclésiastique était un homme âgé de plus de 40 ans. Il était grand, sec, fort et musculeux, une figure d'athlète, sur laquelle on reconnaissait les traces de longues fatigues et de durs travaux, témoignait qu'il était prêt encore à tout braver, quoiqu'il l'eût réduit à une maigreur extrême qui rendait étonnamment saillantes les parties osseuses de son corps. Sa tête était couverte d'une toque de drap écarlate garnie de fourrure, analogue à celle que les Français appellent mortier, à cause de sa ressemblance avec un mortier renversé. On pouvait donc voir tout son visage, dont l'expression était faite pour imprimer à des étrangers un degré de respect, sinon de crainte. Ses traits, naturellement mâles et fortement prononcés, avaient pris, par un long séjour sous le soleil des tropiques, une teinte presque aussi foncée que la figure d'un nègre, et l'on eût dit, lorsqu'ils étaient calmes, qu'ils sommeillaient jusqu'à ce que quelque passion orageuse vînt les animer. Mais la projection des veines de son front, la promptitude avec laquelle sa lèvre supérieure, couverte d'une moustache noire et épaisse, frémissait à la plus légère émotion, prouvait assez qu'il faudrait peu de choses pour réveiller dans son cœur cet orage assoupi. Un seul regard de ses yeux noirs et perçants faisait deviner combien il avait surmonté d'obstacles et bravé de dangers. Il semblait même désirer qu'une digue vînt contrarier sa volonté, afin d'avoir l'occasion de la briser par de nouvelles preuves de vigueur et de courage. Une longue et profonde cicatrice au front donnait à sa physionomie un air plus dur et plus farouche encore, et à ses yeux une sinistre expression, car leur rayon visuel, d'ailleurs très pénétrant, était légèrement oblique. L'habillement de dessus de ce personnage ressemblait à celui de son compagnon. C'était un long manteau de moine, mais dont la couleur écarlate indiquait que celui qui le portait n'appartenait à aucun des quatre ordres réguliers. Sur l'épaule droite était taillée en drap blanc une croix d'une forme particulière. Ce premier vêtement cachait, ce qui d'abord paraissait peu en harmonie avec sa forme, une cotte de maille avec des manches et des gantelets de même métal, curieusement travaillés et se prêtant au mouvement du corps avec la même flexibilité que s'ils eussent été tissés au métier. Le devant des cuisses, quand les plis de son manteau permettaient de le voir, paraissait couvert du même tissu métallique. Les genoux, ainsi que les jambes et les pieds, étaient protégés par de petites plaques d'acier artistement unies qui, descendant jusqu'aux chevilles, complétaient l'armure défensive du cavalier. À sa ceinture pendait un long poignard à double tranchant. C'était sa seule arme offensive. Il ne montait pas une mule comme son compagnon, mais une vigoureuse hacnée, sans doute afin de ménager son beau cheval de bataille qu'un écuyer conduisait par la bride, et qui était harnaché comme pour l'instant du combat, ayant la tête protégée par un fronteau d'acier terminé en fer de pique. À un côté de la selle pendait une hache d'armes richement damasquinée, et à l'autre un casque orné de plumes, une sorte de capuchon métallique, avec une longue épée comme les chevaliers en avaient alors. Un second écuyer portait la lance de son maître, à l'extrémité de laquelle flottait une petite banderole sur laquelle était peinte une croix de la même forme que celle que l'on voyait sur le manteau. Il portait aussi un petit bouclier triangulaire, assez large du haut pour défendre la poitrine et diminuant graduellement des deux côtés pour se terminer en pointe par le bas. Ce bouclier était couvert d'un drap écarlate, ce qui empêchait d'en voir la devise. Ces deux écuyers étaient suivis de deux autres, dont les noirs visages, les turbans blancs et les vêtements d'une forme orientale montraient qu'ils étaient nés dans quelque région lointaine d'Asie. Tout l'extérieur du guerrier et de son escorte avait quelque chose d'exotique et d'étrange. Le costume de ces écuyers était également assez recherché, et ces deux domestiques orientaux portaient des bracelets et des colliers d'argent, avec des cercles du même métal autour des jambes, qui étaient nus depuis la cheville jusqu'au mollet, de même que leurs bras tout basanés étaient découverts jusqu'au coude. La soie et les broderies qui surchargeaient leurs habits annonçaient la richesse et l'importance de leur maître, en même temps qu'ils formaient un singulier contraste avec la simplicité de son propre attirail. Leurs sabres à lames recourbées, à poignées damasquinées en or, étaient suspendus à des baudriers brodés aussi en or, et garnis de poignards turcs d'un travail encore plus merveilleux. Chacun d'eux portait à l'arçon de sa selle un faisceau de dards ou javeline à pointe acérée d'environ 4 pieds de longueur, ayant des têtes d'acier effilées, armes très en usage alors parmi les Sarrasins, et qu'on emploie encore dans l'Orient à l'exercice nommé El Djerid. Les chevaux de ces deux écuyers, aussi bien que leurs cavaliers, semblaient de race étrangère. Ils étaient Sarrasins d'origine, conséquemment arabes. Leurs membres fins et délicats, leurs petits fanons, leurs crinières déliées, leur allure aisée contrastaient avec les lourds chevaux dont on soignait la race en Flandre et en Normandie pour les hommes d'armes, dans le temps où ils se couvraient de la tête aux pieds d'une pesante armure de fer, dite panoplie. Placés près de ces coursiers orientaux, les chevaux normands pouvaient être considérés comme une personnification du corps et de son ombre. Le singulier aspect d'une pareille cavalcade éveilla non seulement la curiosité de Vamba, mais encore celle de son compagnon, quoique bien moins frivole. Il reconnut aussitôt le moine pour le prieur de l'abbaye de Jorvaux, célèbre à plusieurs lieux à la ronde comme un amateur passionné de la chasse, de la table, et, si la renommée n'est pas trompeuse, de beaucoup d'autres plaisirs mondains bien plus incompatibles encore avec les vœux du cloître. Cependant, les idées que l'on nourrissait relativement à la conduite du clergé, tant séculier que régulier, étaient si relâchées à cette époque que le prieur Heimer conservait une assez bonne réputation dans le voisinage de son abbaye. Son caractère jovial et franc, et l'indulgence qu'il montrait pour tous ces petits péchés si ordinaires dans le monde, le faisaient accueillir chez les nobles de toute classe, à plusieurs desquels il se trouvait uni par les liens de la parenté, étant lui-même d'une famille normande très distinguée. Les dames, surtout, n'étaient pas disposées à éplucher trop minutieusement la conduite d'un des plus ardents admirateurs de leur charme, et si habile à dissiper l'ennui qui ne réussissait que trop souvent à s'introduire dans les salons et les boudoirs d'un château féodal. Le prieur se livrait aux amusements de la chasse avec une ardeur étonnante, et il était connu pour posséder les faucons les mieux dressés et les lévriers les plus agiles de tout le North Reading, circonstance qui le recommandait puissamment auprès de la jeune noblesse. Il avait un autre rôle à jouer avec les vieillards, et il s'en acquittait à merveille. Ses connaissances très superficielles en littérature lui suffisaient pour imprimer à des hommes ignorants le respect le plus grand pour son érudition supposée. La gravité de son air et de son langage, le ton imposant qu'il prenait en parlant de l'autorité de l'Église et du sacerdoce, faisaient presque croire à sa sainteté. Enfin, le bas peuple lui-même, critique si sévère de la conduite de ses supérieurs, avait de l'indulgence pour les faiblesses du prieur Heimer. Il était charitable, et la charité, comme on le sait, rachète une foule de péchés dans un autre sens que ne le dit l'Écriture. Les revenus de l'abbaye, dont une grande partie se trouvait à sa disposition, en lui donnant les moyens de faire face à ses dépenses, qui étaient considérables, lui permettaient de prodiguer des largesses aux paysans et de soulager quelquefois la détresse des plus nécessiteux. Si le primeur Heimer allait souvent à la chasse, restait longtemps à table, si on le voyait à la pointe du jour rentrer par la poterne de l'abbaye, après avoir passé la nuit dans quelque galant tête-à-tête, on se bornait à hausser les épaules et on s'accoutumait à ses irrégularités, en se rappelant que la plupart de ses confrères qui n'avaient pas les mêmes droits à l'indulgence en faisaient tout autant, peut-être davantage encore. La personne et le caractère du prieur Heimer étaient donc bien connus de nos deux serfs saxons, qui lui firent leur salut campagnard et qui reçurent en retour son « Bénédicité, mes fils ». Toutefois, l'air étrange de son compagnon et de sa suite redoublait la surprise du gardeur de pourceau et du jovial Vamba. Et à peine firent-ils attention à ce que disait le prieur de Jorvaux quand il leur demanda s'ils ne connaissaient pas dans le voisinage quelques maisons où ils pussent être reçus, tant ils étaient frappés de la tournure moitié monastique, moitié militaire de l'étranger basané, et de l'accoutrement bizarre ainsi que des armes de ces deux écuyers orientaux. Il est probable aussi que la langue dans laquelle leur parlait le prieur sonna mal à des oreilles saxonnes, quoique sans doute elle ne fût pas entièrement inintelligible pour eux. « Je vous demande, mes enfants, » dit le prieur en élevant la voix et en faisant usage du nouvel idiome, mélange de normand et de saxon, « je vous demande s'il n'y a pas dans les environs quelque brave homme qui, pour l'amour de Dieu et par attachement à notre sainte mère l'Église, voudra bien donner l'hospitalité pour une nuit à deux de ses plus humbles serviteurs. » Le ton de ces paroles contrastait singulièrement avec les expressions modestes qu'il avait jugées à propos d'employer. « Deux des plus humbles serviteurs de notre sainte mère l'Église, » répéta Vamba en lui-même, car tout fou qu'il était, il eut soin de ne pas faire cette observation tout haut. « Je voudrais voir comment sont faits ces grands sénéchaux, ces principaux sommeliers et ces autres servants. » Après ce commentaire mental sur le discours du prieur, il leva les yeux et répondit ainsi à la question. « Si les révérends pères souhaitent bonne chère et bon gîte, ils trouveront à quelques miles d'ici le prieuré de Brinsworth, où leur qualité ne saurait que leur assurer la meilleure réception. S'ils préfèrent employer une partie de la soirée à la pénitence, ils n'ont qu'à prendre ce sentier qui mène à l'ermitage de Copmanhurst, où un pieux anachorète leur accordera sans doute l'abri de son toit et le bienfait de ses prières. « Mon honnête ami, » lui répondit le prieur en secouant la tête à cette double proposition, « si le bruit de tes clochettes ne t'avait dérangé l'esprit, tu saurais que les gens d'église n'invoquent pas l'hospitalité les uns des autres. » Clericus clericum non decimat, et qu'ils préfèrent la demander aux laïcs, pour leur donner ainsi l'occasion de servir Dieu en honorant et secourant ses humbles ministres. « Il est vrai, » dit Vamba, « que tout âne que je suis, j'ai l'honneur de porter des clochettes comme la mule de votre révérence. Cependant, je croyais que la charité de notre mère la Sainte Église et de ses serviteurs pourrait fort bien, comme toute autre charité, commencer par elle-même. « Trêve à ton insolence, coquin !» dit le cavalier armé en interrompant son babil. Indique-nous, si tu le peux, la route qui mène chez... Comment appelez-vous votre Franklin, Prieurheimer?
Cédric le Saxon, répondit le prieur.
Dis-moi, mon ami, sommes-nous près de sa demeure, et peux-tu nous montrer le chemin?
Le chemin n'est pas facile à trouver, répondit Gurth, rompant le silence pour la première fois.
Et la famille de Cédric se couche de très bonne heure.
Paix, maraud, s'écria le cavalier militaire. Elle sera trop flattée de se lever et de pourvoir aux besoins de voyageurs tels que nous, qui ne nous abaissons pas à demander l'hospitalité que nous avons le droit d'exiger.
Je ne sais, dit Gurth avec humeur, si je devrais montrer le chemin de la maison de mon maître à des hommes qui demandent comme un droit l'hospitalité que tant d'autres sont obligés de réclamer comme une faveur.
Tu oses disputer avec moi, esclave,
reprit le guerrier, et donnant de l'éperon à son cheval, il lui fit faire une demi-volte, puis leva le fouet qu'il tenait à la main dans l'intention de punir ce qu'il regardait comme une insolence de la part du paysan. Gurth le regarda fièrement et d'un air refrogné et sauvage, en portant la main à son couteau de chasse. Mais l'intervention du prieur, qui poussa sa mule entre son compagnon et le porcher, empêcha toute violence.
« De par Sainte Marie, frère Brian, vous ne devez pas croire que vous êtes en Palestine, commandant à des Turcs païens et à d'infidèles sarrasins. Nous autres insulaires, nous n'aimons pas les coups, excepté ceux de la Sainte Église, qui châtie ceux qu'elle aime.
« Allons, mon brave, dit-il à vent bas en appuyant ses paroles d'une petite pièce de monnaie d'argent.
« Indique-nous le chemin de la demeure de Cédric le Saxon. Tu dois le connaître, et ton devoir est de le montrer aux voyageurs égarés. Son rang fut-il moins respectable que le nôtre ?»«
Sans mentir, mon vénérable. »
« Sans mentir, mon vénérable père, la tête sarrasine de votre révérend compagnon a tellement effrayé la mienne qu'elle m'a fait oublier ce chemin. Je ne suis pas sûr de pouvoir le retrouver moi-même. »
« Allons, dit l'abbé, tu peux nous le dire si tu veux. Ce révérend frère a été toute sa vie engagé dans les combats parmi les sarrasins pour recouvrer le Saint-Sépulcre. Il est de l'ordre des chevaliers du Temple, dont tu peux avoir entendu parler, et moitié moine, moitié soldat.
« S'il n'est qu'à moitié moine, reprit le bouffon, il ne devrait pas être entièrement déraisonnable envers ceux qu'il rencontre sur la route, quand même il ne se hâterait pas de répondre à des questions qui ne le regardent point.
« Je te pardonne cette saillie, répondit l'abbé, mais à la condition que tu me montreras le chemin de la maison de Cédric.
« Eh bien donc, reprit Vamba, vos révérences doivent prendre ce sentier jusqu'à ce qu'elles arrivent à un endroit où se trouve une croix renversée, dont le piédestal seul est debout. Vous prendrez alors à gauche. » Car il y a 4 sentiers qui aboutissent à la croix renversée, et j'espère que vos révérences atteindront le gîte avant l'orage qui nous menace. »
L'abbé le remercia, et les cavaliers, piquant des deux, se mirent en marche avec l'empressement de voyageurs désireux de gagner le gîte avant la nuit et l'orage. Dès que le bruit des chevaux ne se fit plus entendre, le porcher dit à son compagnon,
« S'ils suivent ta sage direction, les révérends pères n'arriveront pas cette nuit à Rotherwood. »
« Non, » répondit le bouffon en faisant une grimace. « Mais ils seront peut-être assez heureux pour atteindre Sheffield, et c'est un endroit assez bon pour eux. Je suis un chasseur trop avisé pour indiquer au chien le gîte du lièvre si je ne veux pas qu'il l'attrape. »
« Tu as raison, dit Gurth. Il serait fâcheux qu'Aimer vit Lady Rowena, et il serait plus fâcheux encore que Cédric se prît de querelle avec ce moine guerrier, ce qui ne manquerait pas d'arriver. » Mais, en bon serviteur, écoutons et voyons tout sans rien dire.
Revenons aux cavaliers qui eurent bientôt laissé derrière eux les deux serfs et qui causaient ensemble en français normand, idiome employé, comme nous l'avons dit, par les classes supérieures, à l'exception du petit nombre de ceux qui étaient encore trop fiers de leur origine saxonne.
« Que signifie la capricieuse insolence de ces drôles ? » dit le templier au bénédictin.
« Et pourquoi m'avez-vous empêché de la punir ?»
« Dame, frère Brian, répondit le prieur, l'un d'eux est un fou, et il serait impossible d'en rien tirer de raisonnable, à moins de s'accommoder à son genre de folie. L'autre est un sauvage fier et intraitable, appartenant à cette race de Saxons dont le suprême plaisir, ainsi que je vous l'ai dit souvent, est de manifester par tous les moyens imaginables la haine qu'ils gardent à leur vainqueur.
« Je lui aurais bien vite appris la courtoisie à force de coups, s'écria Brian. Je suis accoutumé à me comporter de cette sorte avec de pareils êtres. » Nos captifs turcs sont aussi fiers, aussi indomptables qu'Odin lui-même peut l'avoir été. Mais il suffit de 2 mois passés dans ma maison, sous la discipline du gouverneur de mes esclaves, pour les rendre humbles, soumis, dociles et obéissants.
Ah ! Sire prieur, il faut avec de tels gens prendre garde au poison et au poignard, car ils ont recours à l'un ou à l'autre dès que vous leur en laissez l'occasion.
Oui, repartit le prieur, mais chaque pays a ses mœurs et ses usages.
Et d'ailleurs, battre cet homme ne nous eût procuré aucune information sur le chemin à suivre pour aller à la maison de Cédric. Et quand bien même cela eût réussi, c'en eût été assez pour nous attirer une affaire sérieuse avec Cédric lui-même. Rappelez-vous que je vous l'ai dit. Ce riche Franklin est orgueilleux, dur, jaloux et irascible, ennemi de la noblesse et surtout de ses voisins Réginald Front de Bœuf et Philippe de Malvoisin, qui ne sont cependant pas des enfants lorsqu'ils ont la lance au poing. Il soutient si fièrement les prétendus droits de sa race, il est si entiché de son extraction, car il descend en ligne directe d'Héroard, fameux champion de l'heptarchie, qu'on l'appelle généralement Cédric le Saxon. Et il se glorifie d'appartenir à un peuple d'où beaucoup d'autres s'efforcent de cacher qu'ils descendent, de peur d'éprouver une partie des effets du vae victis, autrement dit, des rigueurs qui pèsent sur les vaincus. Prieur Heimer, je connais vos succès en amour. Je sais qu'en fait de beauté, vous êtes non moins connaisseur, en matière de galanterie non moins expert que le plus galant troubadour. Mais il faudra que cette célèbre ruina ait des attraits bien séduisants pour que je fasse abnégation de moi-même et de mes principes dans la vue de me concilier les bonnes grâces d'un rustre séditieux tel que vous m'avez dépeint son père. Cédric n'est pas son père. Le sang de Lady Rowena est plus noble encore que celui dont il se prétend issu. Et s'il lui est uni, c'est par les liens d'une parenté très éloignée. Toutefois, il est son tuteur, et c'est lui-même, je crois, qui s'est arrogé ce titre. Sa pupille lui est aussi chère que si elle était sa propre fille. Quant à la beauté de Rowena, vous en jugerez bientôt vous-même, et si la suavité des grâces de sa personne, la douce et majestueuse expression de ses yeux bleus, ne vous font pas oublier les jeunes filles aux cheveux noirs de la Palestine et les houris du paradis de Mahomet, je veux être un infidèle et non plus un véritable enfant de l'Église. Si votre belle si vantée est mise dans la balance et pèse moins que vous ne l'annoncez, vous savez quelle est notre gageure. Mon collier d'or contre 10 bottes de vin de Chios. Elles sont aussi sûrement à moi que si je les tenais déjà dans les caves du couvent, sous les clés du vieux Denis le Célérier. Mais je dois être juge moi-même, et il faudra que j'avoue n'avoir pas vu de fille aussi jolie depuis la Pentecôte dernière. Ne sont-ce pas là les conditions du pari? Mon cher prieur, votre collier court de grands risques, je vous assure. Je le porterai à mon cou dans la lice qui va s'ouvrir à Ashby de la Zouche. Cela n'est pas certain. Je vous demande seulement de répondre en chevalier et en chrétien. Cependant, mon frère, suivez mon avis et croyez-moi, accoutumez votre langue à un peu plus de courtoisie que vos habitudes de commandement sur les esclaves infidèles et sur les captifs orientaux ne vous en ont donné. Cédric le Saxon, s'il était offensé, et cela n'est que trop facile, est un homme qui, sans respect pour votre titre de chevalier, pour mon rang élevé et pour la sainteté de mon ministère, nous éconduirait de sa maison et nous enverrait loger en plein vent avec les alouettes, même au milieu de la nuit. Faites attention aussi à la manière dont vous regarderez la belle Rowena, sur laquelle il veille avec le soin le plus jaloux. Car s'il prenait la moindre alarme de ce côté, nous serions perdus. On dit qu'il a banni de sa maison son propre fils pour avoir levé les yeux d'une manière affectueuse de cette beauté, qu'on peut, dit-on, adorer de loin, mais qu'il ne faut pas aborder avec d'autres pensées que celles qui nous animent en présence de l'image de la Sainte Vierge. À merveille, vous en avez dit assez. Je veux toute une soirée me tenir sur la réserve et paraître aussi modeste qu'une jeune fille. Mais quant à la crainte que Cédric ne nous renvoie violemment, il faut vous en défaire. Mes écuyers et moi-même, avec Ahmet et Abdallah, nous vous épargnerons cette disgrâce. Ne doutez pas que nous ne soyons assez forts pour nous maintenir dans notre logement. Agissons avec prudence et modération. Mais voici la croix renversée, et le temps est si obscur que nous pouvons à peine voir quel est le chemin qu'il faut prendre. On nous a dit, je crois, de tourner à gauche. Non, c'est à droite, ma mémoire ne me trompe pas. C'est à gauche, bien certainement. Je me rappelle qu'il nous montra la direction de la route avec le bout de son sabre de bois. Oui, mais il le tenait de la main gauche, et il en dirigea la pointe à droite, reprit le Templier. Chacun soutint son opinion avec un égal entêtement, comme il est d'usage en pareil cas. Ils consultèrent les gens de leur suite, mais aucun n'avait été assez près de Vamba pour l'entendre. À la fin, Brian s'écria, à la vue d'un objet qui, d'abord, ne l'avait point frappé dans le crépuscule. « Voici, je crois, quelqu'un bien endormi ou étendu mort au pied de cette croix. Hugo, remue-le donc avec le bout de ta lance. » Hugo n'eut pas plus tôt exécuté l'ordre de son maître qu'un homme se dressa en s'écriant en bon français. « Qui que vous soyez, ne manquez-vous pas à la courtoisie en venant ainsi troubler mes pensées ?»«
Nous désirions seulement vous demander la route qui mène à Rotherwood, habitation de Cédric le Saxon, répondit le prieur.
J'y vais moi-même, reprit l'étranger. Et si j'avais un bon cheval, je serais votre guide, car le chemin n'est pas aisé à suivre, même par ceux qui le connaissent le mieux.
Vous aurez tout à la fois nos remerciements et une honnête récompense, mon ami, repartit le prieur, si vous consentez à nous conduire sain et sauf à la maison de Cédric.
Et il ordonna à l'un de ses gens de monter sur son propre cheval et de donner le sien à l'étranger qui allait leur servir de guide. Leur conducteur marcha dans une direction opposée à celle que leur avait indiquée Vamba dans l'intention de les égarer. Le sentier qu'ils suivaient s'enfonça de plus en plus dans les bois et était souvent traversé par des ruisseaux dont l'approche était rendue dangereuse par les marécages au milieu desquels ils serpentaient. Mais l'étranger semblait connaître, comme par instinct, les points où le passage offrait toute sécurité. Après avoir surmonté ces nombreuses difficultés, ils se trouvèrent enfin au milieu d'une avenue beaucoup plus large qu'aucune de celles qu'ils eussent jamais vues. Leur montrant alors un bâtiment irrégulier, vaste et peu élevé, qui se trouvait à l'extrémité de cette avenue, l'étranger dit au prieur « Voilà Rotherwood, la demeure de Cédric le Saxon ». On ne pouvait donner une plus agréable nouvelle à Aymer, qui, très peu aguerri contre les inconvénients d'une telle route, tels que les marais et les ravins, avait été trop préoccupé pour pouvoir adresser une seule question à son guide inconnu. Se tournant donc alors vers lui, il lui demanda son nom et sa profession. « Je suis pèlerin, et j'arrive de la Terre Sainte, » répondit celui-ci. « Vous eussiez mieux fait d'y rester et d'y combattre pour la délivrance du Saint-Sépulcre, » dit le Templier. « Vous avez raison, révérend chevalier, » reprit le pèlerin, à qui le Templier semblait parfaitement connu. « Mais lorsque ceux qui se sont engagés par serment à recouvrer la cité sainte voyagent si loin du lieu où les appelle leur devoir, y a-t-il de quoi s'étonner qu'un humble paysan comme moi renonce à la tâche qu'ils ont abandonnée ?» Le Templier allait répondre avec colère, mais le prieur, sans lui en laisser le temps, témoigna son étonnement de ce que le pèlerin parut si bien connaître tous les détours de la forêt. « Ce pays m'a vu naître, » répondit celui-ci. Tout en discourant, ainsi, ils arrivèrent devant la porte. Ce manoir différait entièrement de ces grands châteaux flanqués de tours, dans lesquels se renfermait la noblesse normande et qui était devenu le type universel d'architecture en Angleterre. Toutefois, Rotherwood n'était pas sans quelques fortifications. Aucune habitation, dans cette période de désordre, n'aurait pu subsister sans cela. Elle eût couru à tout instant le risque d'être pillée et brûlée. Un fossé profond qu'une source voisine tenait constamment rempli d'eau entourait l'édifice, et une double palissade formée de pieux pointus tirés de la forêt voisine en défendait les bords. Il y avait du côté de l'ouest une ouverture dans la palissade, et en face un pont-levis. Il existait une semblable ouverture dans la partie inférieure des fortifications. À droite et à gauche de cette entrée, sur une partie des fortifications qui formait un angle saillant, on pouvait au besoin placer des archers et des frondeurs pour la défendre. Le Templier sonna du cor, et bientôt l'on admit les voyageurs. En ce moment, la pluie tombait déjà par torrents.